aujourd'hui présents, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Au travers de ce chant, nous nous souvenons de ce que tu as accompli pour nous. Et nous croyons, Seigneur de gloire, que ton sacrifice, Seigneur de gloire, agit encore aujourd'hui, parle encore aujourd'hui, Seigneur, en notre faveur. Seigneur, merci de prendre le contrôle de ce partage, éternel Dieu. Inspire-nous, dispose nos cœurs à entendre ta voix, à comprendre ta parole, Seigneur, afin d'être fortifiés, afin d'être corrigés, Seigneur, afin d'être consolés, ô Dieu. Car sans toi, nous ne sommes rien, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sois béni, Seigneur de gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut baisser les rotos, s'il vous plaît? Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. On va lire au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut baisser le retour, s'il vous plaît? Je relis le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces premiers passages nous donnent finalement l'information de ce qu'était la terre avant que le Seigneur crée l'homme, crée les animaux, crée la végétation. On nous dit qu'il y avait des ténèbres et c'était informe et vide. Lorsque on voit quelque chose d'informe, c'est quelque chose finalement qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, humainement parlant, lorsque nous parlons d'un cercle, nous pouvons l'imager. Lorsque nous parlons d'un carré, on peut aussi l'imager. Lorsqu'on parle d'un triangle, on peut l'imager. C'est ce qui fait partie de notre vie et nous pouvons mettre des noms là-dessus qui nous permettent d'avoir des repères visuels. Et lorsqu'on dit que quelque chose est informe, c'est quelque chose finalement qui n'est pas défini, quelque chose qui n'a pas de nom. Et ce qui n'a pas de nom, ce qui n'est pas défini, c'est quelque chose aussi qui n'a aucune valeur, qui ne vaut rien du tout finalement. La forme, ou plutôt la valeur, vient dès l'instant où la chose porte un nom et que l'on peut définir dans le temps, que l'on peut définir visuellement. C'est là où la chose a une valeur et surtout une signification. Or, la Bible nous dit qu'avant que le Seigneur crée toute chose, donc la terre était informe. Donc, il n'y avait aucune signification, il n'avait forcément aucun goût. Rien n'était bon. Les conditions telles que les choses étaient au commencement ne permettaient pas à Dieu de créer l'homme et de le faire vivre là-dessus. Il fallait que le Seigneur crée d'abord toute chose, façonne le monde à une certaine image pour que cela soit vivable pour l'homme, que cela mette l'homme dans des conditions dans lesquelles il puisse vivre et dans lesquelles il puisse se développer. Donc, tant que la création de l'homme, les animaux, la végétation n'étaient pas, les choses telles qu'elles étaient vues par le Seigneur, eh bien, représentaient tout simplement la vie sans la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur n'est pas encore intervenu dans un lieu, intervenu dans la vie d'une personne, la personne est vide et informe. La personne n'a pas de vie. Il n'y a pas de signification à sa vie. Il n'y a pas d'objectif et de but à sa vie. Parce que l'intervention de Dieu ne s'est pas encore faite. C'est ainsi qu'était la terre. Tant que Dieu n'était pas intervenu pour la façonner, elle était informe et vide, c'est-à-dire sans valeur. Et lorsque le Seigneur n'intervient pas dans un lieu, dans un pays, dans une nation, dans la vie d'un homme, eh bien tous ces lieux-là sont informes et vides. C'est-à-dire ce sont des lieux qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune vie et qui n'ont pas de nom. La Bible dit qu'autrefois, on était un peuple sans nom. On n'avait pas d'identité. Tant que l'action de Dieu n'avait pas été faite en nous, on était sans identité. Et notre identité est née dès l'instant où Jésus-Christ est venu vivre en nous. Dès l'instant où il y a eu l'action de Dieu dans notre vie, c'est à partir de ce moment-là que nous avons porté un nom, le nom de Christ. C'est à partir de ce moment-là que nous avons eu une certaine valeur. C'est à partir de ce moment-là que le regard même de Dieu vis-à-vis de nous a changé. Bien que Dieu nous aimait tel qu'il nous avait créés, mais Jésus-Christ vivant en nous, nous sommes désormais une nouvelle personne. Et tant que le Seigneur n'a pas fait son action, le monde est vide et informe. J'ai médité sur ce message-là. Nous avons eu une réunion hier où nous avons échangé, nous avons témoigné les uns des autres sur les réalités de la vie dans laquelle nous étions autrefois lorsque Dieu n'était pas. Et nous avons exposé finalement les raisons pour lesquelles nous nous sommes attachés à Dieu. Tant que le Seigneur n'était pas dans notre vie, la vie n'avait aucune valeur. Et pendant cet échange-là avec les frères et sœurs, une personne a tenté de m'appeler. Bien entendu que je n'ai pas pu décrocher le téléphone. Et je l'ai rappelé ce matin. Et en rappelant ce matin, je lui ai demandé, bah, « Tiens, tu as essayé de me joindre, qu'est-ce que tu voulais ?» Elle dit, « Je voulais tout simplement échanger pour demander est-ce que ça peut arriver à tout chrétien d'être découragé par les réalités de la vie ?» Je lui ai dit, « Mais c'est l'entretien que nous avons eu hier avec les frères et sœurs où on exposait justement que les réalités de la vie pouvaient quelquefois nous refroidir, pouvaient quelquefois nous décourager, mais la réalité de ce que nous avons connu en Jésus par rapport à ce que nous étions autrefois est devenue vraiment un attachement pour nous qui nous permet de regarder à l'avenir et de nous souvenir que même s'il y a eu des temps difficiles, mais on se souvient de ce qu'on était et ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et nous avons donc échangé sur ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est de là qu'est née cette exhortation. Et devant, c'est vrai, les réalités de la vie auxquelles nous pouvons être exposés, on peut passer de la joie à la tristesse rapidement. Et la Bible nous dit que Dieu a créé le jour du malheur et le bonheur de la même manière. Ça veut dire que dans la volonté de Dieu de permettre à l'homme de connaître le malheur, on va commencer par le bonheur, de connaître le bonheur, il y a vraiment le souhait de Dieu de réjouir l'homme, que l'homme prenne plaisir à toutes les grâces que Dieu peut lui donner. Il y a vraiment un objectif fort derrière la volonté de Dieu que l'homme puisse connaître le bonheur. Mais la Bible nous dit que la même manière Dieu a aussi créé le malheur. Ça veut dire que dans le malheur, le Seigneur a aussi un objectif profond à interpeller l'homme sur la réalité de la vie. Car la suite de ce verset nous dit que « Car l'homme, afin que l'homme ne sache pas ce qu'il viendra après lui. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être dans la joie. Et dans une grande joie, et une heure après, entendre une mauvaise nouvelle. Mais au moment où tu es dans la joie, tu es incapable de t'imaginer qu'une heure après, tu vas pleurer. Et c'est ce qui montre la souveraineté de Dieu. Et c'est ce qui montre aussi l'instabilité du monde dans lequel nous sommes. Qui nous montre clairement que nous pouvons créer toutes choses sur la terre, mais nous sommes incapables de maîtriser ce qui sera après nous. Nous sommes incapables de maîtriser ce qui se passera une minute après. Nous sommes témoins des événements qui se passent là à Nice. Mais il y a 2 semaines, 3 semaines, c'était la fête du football à Nice. Les gens jouaient, les gens rigolaient, il y avait les étrangers qui étaient là. Ils dépensaient de l'argent. Ils allaient au stade voir les matchs de football. Et hier encore, c'était le feu d'artifice. On se préparait. Chacun était dans la fête. Et quelques temps après, les gens sont dans le deuil. Mais si on leur avait dit, profitez du football, parce que dès que le football va finir, vous allez pleurer. Les gens n'auraient pas cru. Et tout cela nous montre que le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas une vraie joie. Il n'y a pas une vraie paix définitive. Tant que le Seigneur est absent, les choses ne peuvent pas être totales. Alors, Dieu va créer toutes choses. Nous le savons, il va créer Adam, il va créer Ève, il va créer le jardin, il va créer la végétation. Et il va permettre à l'homme de vivre heureux, de connaître un bonheur a priori éternel, jusqu'à ce que l'homme désobéisse à Dieu et fasse entrer le péché dans l'humanité. Et à partir de là, le monde va être totalement corrompu. Le projet que le Seigneur avait à l'homme, à l'initial, va être corrompu et entraîner la mort, entraîner la maladie, emmener les querelles, emmener les guerres sur la terre parce que le cœur de l'homme a été perverti par le péché qui est entré en lui. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 6, nous voyons le tableau même de l'humanité tel que nous pouvons encore le vivre aujourd'hui. Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Devant toute la création corrompue où les hommes étaient méchants, cela témoignait que la grâce de Dieu telle que Adam l'avait connue, la gloire de Dieu telle que Adam l'avait connue, n'était plus. On est revenu comme à l'étape initiale, comme si Dieu finalement était absent. L'action de Dieu ne se faisait plus ressentir sur la terre et ça s'est vu par les œuvres et les actes que les hommes commettaient. Il y avait l'absence de Dieu. La crainte de Dieu n'était plus. La honte de Dieu n'était plus. L'homme était devenu totalement libre et livré au péché, livré à ses penchants, livré à sa rébellion. Et le Seigneur s'est tout simplement mis en retrait. Parce que l'un des principes qui était valable à ce moment-là, depuis la création jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est que le Seigneur a toujours laissé l'homme libre dans ses choix, libre dans sa volonté de faire ce qu'il avait envie de faire. Le Seigneur ne s'est jamais imposé dans la vie des hommes. Et à cette époque-là, les hommes aussi ont voulu prendre leur liberté pour faire de leur vie des instruments de péché, des instruments de querelle, des instruments de guerre, des instruments de rébellion vis-à-vis du Seigneur. Ils se sont rebellés et le Seigneur s'est maintenu à l'extérieur. Donc lorsque nous lisons ce passage-là, nous voyons clairement que dans la vie que les hommes menaient, il n'y avait pas la présence de Dieu. Les hommes étaient devenus informes et vides. Il n'y avait plus de valeur, il n'y avait plus de moralité dans leur manière de vivre et de regarder le péché. Le péché n'était plus péché. Tout ce qui était bien était devenu mal et tout ce qui était mal était devenu bien. Et le Seigneur avait ce tableau-là, avait ce spectacle-là sous ses yeux et il observait les hommes en train de vivre. Regardons ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes appellent le mal bien et le bien mal. Toutes les choses sont inversées. L'homosexualité est devenue normale. On nous parle de la théorie du genre, dans tout ce qui consiste à détruire finalement l'œuvre de Dieu, à contredire ce que Dieu a créé, paraît au grand jour et les hommes ne se cachent plus pour contester Dieu ouvertement. Et toutes ces personnes qui agissent ainsi, qui fonctionnent ainsi, sont des personnes invides et informes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas encore expérimenté l'action de Dieu dans leur vie. Et la Bible nous montre que les choses sont ainsi, mais la réalité nous montre que les choses sont ainsi encore aujourd'hui. Et lorsque nous voyons ces personnes qui font des guerres, ces personnes qui font le terrorisme, ce sont des personnes vides. Il n'y a pas la vie de Dieu en eux. Il n'y a pas eu l'action du Seigneur pour que ces gens comprennent la véritable valeur de la vie et comprennent le sens même de leur vie. Ils sont informes parce que l'action de Dieu n'est pas. Et forcément, tout ce qui était informe et vide, la Bible nous dit qu'il y avait aussi les ténèbres. Et celui qui est dans les ténèbres, ben c'est celui finalement qui n'est pas dans la lumière. Il y a une personne qui avait dit que les ténèbres, c'est quoi en réalité? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Or, nous savons que la véritable lumière qui est venue dans le monde était Jésus-Christ. Donc, là où il y a les ténèbres, c'est là où finalement il n'y a pas la présence de Jésus. Quand il n'y a pas la lumière, c'est que forcément nous sommes dans les ténèbres. Et une personne qui est dans les ténèbres, c'est une personne qui est aveugle, dont la vie n'a aucun sens parce qu'elle ne sait même pas où elle va. Lorsque tu marches dans les ténèbres, tu ne sais même pas, tu ne peux pas te repérer. Où est le nord, où est le sud, où est l'est, il n'y a aucun repère. Lorsqu'il n'y a pas des étoiles, lorsqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a aucun repère pour savoir là où tu t'orientes. Et les personnes qui sont dans les ténèbres ne savent pas où elles vont. Elles ne savent pas où elles s'orientent. Ce sont des personnes informes et vides. dont la vie de Dieu n'existe pas et dont l'intervention du Seigneur ne s'est pas encore faite pour qu'ils aient une forme qui corresponde aux attentes de Dieu. Mais la réalité dans laquelle nous sommes, c'est une réalité qui nous démontre clairement, bien-aimés, que les choses ne vont pas s'améliorer. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle pour les humains. Comme le Seigneur l'a dit dans Apocalypse, il dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la phrase qui suit avant nous dit « Malheur à vous, habitants de la terre !» Malheur à vous, habitants de la terre. Donc apparemment, c'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est une mauvaise nouvelle dans une bonne nouvelle, parce que c'est la Bible qui nous informe de toutes ces choses-là. C'est la Bible qui nous prévient que les choses seront ainsi et elles ne vont pas s'arranger. Nous voyons tout ce qu'il se passe aujourd'hui emmène du découragement, emmène quelquefois la peur, emmène quelquefois le manque de foi. Dans Jean 12, le Seigneur dit « Mon âme est troublée, je suis troublé. » Mais il dit « Mais non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais renoncer. » Il dit « Non, je suis venu pour ça. » Les réalités de la vie, ce que le Seigneur vivait, même quelquefois avec ses disciples, il a dit « Mais jusqu'à quand je vais rester avec vous ?» On voit que le Seigneur, à un moment, a été agacé d'être sur la terre. Il a été agacé de vivre ces réalités où il n'y avait que le péché qui l'environnait, la violence qui l'environnait, le mensonge, l'hypocrisie des hommes qui contestaient ouvertement les œuvres qu'il faisait. Alors que, selon les Écritures, il n'y avait que le Messie qui pouvait faire ces miracles-là. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a prêché ce qui était propre au royaume des cieux. Et ouvertement, les gens en niaient. Et le Seigneur a été agacé. Mais jusqu'à quand je vais rester avec vous? Il était fatigué de cette vie sur terre. Mais il s'est souvenu qu'il était venu pour vivre ça. Il était venu pour accomplir la mission de celui qui l'avait envoyé. Même si l'état des choses était critique, même si en allant à la croix, il savait clairement que beaucoup de personnes allaient nier, allaient refuser l'œuvre de la croix, allaient refuser son évangile, il savait pourquoi il était là. Et la Bible nous dit que le Seigneur n'a pas regardé à son intérêt, mais sa joie était liée à la récompense que Dieu lui préparait, c'est-à-dire de nous voir sauver nous. Le Seigneur acceptait de vivre cette souffrance-là parce que ce qui faisait sa joie, c'était de voir à l'avance ce que le Seigneur ferait de nous, un peuple nouveau, des gens sauvés, ressuscités de la mort. C'est ça qui faisait la joie du Seigneur. Et c'est à cause de cette joie-là qu'il a accepté ses souffrances. Lorsqu'il voyait ce que son Père préparait pour nous, il a accepté de souffrir. La souffrance de Jésus, pour lui, en valait la peine. Ça valait la peine qu'il souffre pour nous voir un jour avec lui dans son royaume. Ça valait la peine qu'il souffre pour voir que l'Esprit de Dieu allait nous être donné. Il a accepté de souffrir, même si les conditions étaient difficiles, parce que la joie à venir était beaucoup plus grande que les souffrances qu'il vivait en ce moment-là. Ce qu'il voyait à l'avance était beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait vivre là. Il y a des personnes qui s'engagent dans des longues études, peut-être dans la médecine, et encore plus, parce que quand tu es dans la médecine, tu peux t'orienter vers la pharmacie, vers médecin généraliste, et encore des années si tu persistes encore en étant chirurgien et encore neurochirurgien. Donc même si la voie au départ est pour tous, mais en fonction du zèle de la personne, en fonction du sacrifice que la personne accordera, les choses à venir seront plus grandes. Ceux qui le font pour l'argent, ils acceptent de souffrir dans toutes ces années d'études parce qu'ils savent qu'à la fin, ils auront un bon salaire. Donc qu'est-ce qui les aide à supporter ce temps d'études, ce temps de souffrance, de galère, où ils s'abstiennent de vivre comme les autres jeunes, qui prennent du temps à travailler, à revoir les cours? Qu'est-ce qui leur donne la force de continuer? C'est lorsqu'ils voient l'avenir qui est préparé à travers cet emploi-là. Certains sont motivés par ça. C'est ça qui font leur force. Il y a des gens qui payent très cher les études. Ils ne payent pas les études parce que ça leur fait plaisir de payer. Ils payent les études parce qu'ils savent que à l'avenir, ce que le salaire va leur apporter remboursera largement. Donc pour eux, souffrir à ce moment-là, se priver à ce moment-là, en vaut la peine parce qu'ils savent que la consolation future sera beaucoup plus grande. C'est ça qui devient leur élément moteur. Et ce qui a touché le cœur du Seigneur, ce qui a emmené le Seigneur à persévérer et à accepter cette souffrance-là, c'était de voir ce que nous allons devenir. C'était de voir le résultat du sacrifice que lui allait accomplir. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Au bout d'une victoire, il y a un travail qui est fait. Au bout d'une victoire, il y a des sacrifices qui ont été faits. Même si les réalités qui nous environnent nous dépassent et nous montrent clairement que la terre est mauvaise, que la terre est pourrie, qu'il n'y a rien de bon, on est heureux aujourd'hui et demain on pleure. On est dans la joie aujourd'hui et demain on est dans la peur. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et la Bible nous annonce que les choses ne changeront pas. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 24, le Seigneur annonce la fin des temps. Il annonce les signes qui vont caractériser la fin des temps et qui sont pour nous des repères, qui sont pour nous comme une horloge, qui nous montrent des événements précis, qui nous rappellent que là nous sommes dans le Dieu, que là nous sommes proches de voir le retour du Seigneur. Et il annonce à ses disciples la destruction du temple. Il annonce à ses disciples qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des famines en divers lieux, des guerres et des bruits de guerre. Il dit, mais toutes ces choses-là ne vont annoncer la fin, annoncer que la fin, mais ça ne sera pas encore la fin. Et il dit à ses disciples, il faut que ces choses arrivent. Ces choses doivent arriver pour nous servir de signe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque nous apprenons que la Bible nous annonce qu'il y aura des malheurs, c'est une mauvaise nouvelle charnellement, mais c'est une bonne nouvelle qui nous rappelle que la Bible ne ment pas. C'est une bonne nouvelle qui nous rappelle que nous avons fait le bon choix, parce que ce que la Bible annonce, c'est ce qui se produit. Donc même ces malheurs-là deviennent des preuves véritables que la Bible dit vrai et que nous sommes dans la réalité de la Bible. Et au verset, chapitre Matthieu 24, au verset 21, il est écrit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Bien-aimés, nous avons lu dans Genèse 6, après que Adam ait péché, que le Seigneur voyait comment les hommes vivaient. Le Seigneur a vu même les esprits, les démons, venir aller vers les femmes humaines et avoir des enfants avec eux. Le Seigneur a été témoin de toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. La Bible nous dit dans le psaume 24 que lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge? Lorsque le Seigneur a vu justement dans Genèse 6, c'est les hommes vivre comme des animaux, ne pas faire cas du Seigneur. Mais Dieu s'est souvenu simplement de Noé. Mais pour tout le reste des hommes, il a dit « Je vais tous les détruire ». Noé a prêché près de 120 ans. Les gens ont refusé de se repentir. Et le Seigneur a donc exercé son jugement. Il a fait venir le déluge. On peut imaginer, bien aimé, comment les gens ont pu souffrir lorsque les eaux étaient en train de monter. Ceux qui cherchaient à se cacher sur les collines, à monter sur les arbres, à monter sur les montagnes, en espérant que l'eau ne les atteigne pas. Mais l'eau avait couvert toute la surface de la terre. Les gens ont souffert, ont été dans l'agonie. Mais la Bible nous dit qu'il y aura une souffrance plus difficile que même qui existait au commencement. Ça veut dire que la souffrance et le péché dans lequel étaient les hommes au temps de Noé est inférieur à ce que le Seigneur nous annonce là. Et les choses vont être pires. C'est atroce, bien aimé, ce qui s'est passé hier. C'est atroce de voir que quelqu'un prend librement un véhicule pour rouler sur des gens. Plus de 84 personnes. Une personne déterminée à faire le mal, n'ayant plus même le sentiment ou la pitié, jusqu'à écraser même des enfants. Et la Bible nous dit que les choses ne vont pas s'améliorer depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Que la souffrance va être telle que même les élus vont être dérangés. Que même les élus vont être touchés par ces réalités-là. Malgré les promesses que nous avons du Seigneur, la Bible nous dit que les élus vont être affectionnés par tout ce qui se passe. Ils vont être déroutés par tout ce qui se passe. Et c'est à cause de la souffrance des élus, à cause de la souffrance des chrétiens, à cause de la détresse des chrétiens, que le Seigneur viendra mettre un stop. Ça arrivera à un niveau où même les chrétiens ne supporteront plus cette douleur-là. Malgré la présence de Dieu dans leur vie, malgré la présence de l'Église, il y a un niveau où on ne supportera plus le mal. Le mal sera tellement élevé que le Seigneur, voyant que beaucoup des élus risqueront de perdre la foi et d'abandonner, c'est là où il viendra abréger tous ces jours-là. Ça veut dire, bien aimé, que nous sommes qu'au commencement. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Est-ce que nous allons connaître là ce que la Bible décrit? Je ne sais pas. Mais je crois que ce que nous voyons déjà, c'est déjà beaucoup. Ce que nous vivons, c'est déjà beaucoup. De ne plus être en sécurité dans les lieux publics. Là où il y a la foule, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'une bombe va exploser? De ne plus être libre d'envoyer nos enfants tranquillement à l'école sans savoir qu'est-ce qu'on va leur enseigner. Qu'ils rentrent de l'école, qu'on leur dise encore, on a fait la sorcellerie, on a fait ceci. Donc, toutes ces choses-là ne vont faire que s'accroître, ne vont faire que grandir. On va vouloir nous enseigner des choses, nous emmener dans une direction, nous pousser à voter des lois qui vont à l'encontre de l'Évangile. À un moment donné où tu ne pourras plus dire la vérité parce qu'on te menacera tout le temps de te mettre en prison, comme c'est le cas déjà dans certains pays comme la Suède, où on a emprisonné des pasteurs parce qu'ils ont dénoncé que l'homosexualité était un péché. On ne pourra plus parler. Et n'ayant plus cette liberté-là, les chrétiens vont être fatigués de rester sur terre. Le mal va tellement grandir que on va être fatigué sur terre. Et c'est ce que nous vivons. Mais cette réalité que nous dénonçons là, bien-aimés, c'est une réalité que les apôtres vivaient aussi déjà en leur temps. Il y a plus de 2000 ans qui sont passés. Et les véritables chrétiens souffraient déjà de tout cela. Les véritables chrétiens étaient déjà fatigués avec tout ça. L'apôtre Paul va s'interroger. Il va dire, mais qu'est-ce qui est mieux pour moi? Que je reste sur la terre? Il dit de loin, ce qui est mieux pour moi, c'est de mourir. Parce que si je meurs aujourd'hui, je suis avec mon Seigneur. C'est des gens qui étaient rassasiés avec la vie. La vie ne leur disait plus rien. Il n'y avait rien de bon. Et il dit, ce qui est de loin le meilleur pour moi, mais c'est de retrouver mon Seigneur. Il dit, mais le travail n'est pas fini. Alors je suis encore ici. Dieu me maintient encore ici parce que le travail n'est pas fini. Mais si moi je pouvais choisir, volontiers je m'en irais. Parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Ils étaient déjà dans ces réalités-là. La vérité du monde les dérangeait. Les réalités du monde les dérangeaient. Ils ne prenaient pas plaisir à être sur la terre en tant qu'humains. Mais leur plaisir ne se trouvait qu'en Jésus-Christ, qu'en Dieu. Parce qu'il n'y avait rien de bon sur la terre. Ces gens avaient atteint une relation avec Dieu, une relation spirituelle avec Dieu, où les choses de la terre ne les intéressaient plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ayons le vêtement et le manger, ça nous suffit. C'est ça qui nous suffit. Le plus, tout ce qui brille, ce n'est pas ça qui est important. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il exhortait les églises, il dit, mais que les femmes ne cherchent pas à être parées de beaux vêtements et de choses extraordinaires, non! Qu'elle soit dans la modestie. La vie, ce n'est pas la fête. La vie, c'est avec Christ. Et la vie de Christ, c'est une vie d'humilité, une vie de modestie. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est contre les vêtements de fête. Ce qu'il veut dire par là, que ce n'est pas ça qui doit animer notre vie, qui doit être la recherche de notre bonheur, la recherche de notre paix sur terre, ne doit pas être lié au monde ni au matériel, mais uniquement à la vie de Jésus-Christ en nous. Parce que le monde ne nous apportera rien de durable. La Bible nous annonce ces choses-là. Ce qui était au commencement, la Bible nous dit que ce qui a été au temps de Noé, c'est ce qui se passera encore en ce moment-là. Mais le Seigneur nous dit que le mal ne va faire que s'accroître. À tel point que les élus vont en souffrir. Et les apôtres étaient dans cette configuration-là. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul s'exprime par rapport aux réalités de la terre, aux réalités de la vie, aux réalités de la souffrance. Et il dit dans Romains 8, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent. Il dit, même si les souffrances, elles sont réelles, les souffrances que nous vivons aujourd'hui, elles sont réelles. Elles ont détourné beaucoup d'enfants de Dieu. Elles ont emmené plusieurs personnes à perdre la foi. Mais il dit, mais la gloire à venir, c'est ça qui est de loin le mieux. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de celui qui va trimer dans les études, sachant qu'une récompense l'attend. Jésus-Christ a accepté les souffrances sur terre parce qu'il voyait à distance ce que Dieu préparait pour nous. Donc pour lui, ça valait la peine. Et l'apôtre Paul avait un regard lointain qui l'a aidé à tenir ferme en se disant, même si je souffre sur la terre aujourd'hui, même si ce que je vois me dépasse, mais ça vaut la peine de tenir. Ça vaut la peine de tenir ferme parce que ce que Dieu prépare est de loin beaucoup plus grand que ce que je vis aujourd'hui. Alors je sais que j'aurai ma consolation. Et c'est ce qui m'aide à tenir et à ne pas baisser les bras, même si c'est difficile, à ne pas me décourager, à ne pas me lasser de prier pour ceux qui ne veulent pas changer, de prier pour ceux qui renient le Seigneur. Le but du diable, c'est de nous éloigner et de nous maintenir captifs, de nos pensées captives, de la peur, de nous amener à un état de paranoïa où ceux qui font le mal, on ne pense même plus à prier pour eux. C'est ce que le diable veut. Mais l'apôtre Paul n'était pas dans cette vie. Il dit non, les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir. Autrement dit, ça vaut le coup de souffrir aujourd'hui. Ça vaut le coup d'accepter les souffrances que la terre nous impose si nous savons qu'éternellement nous allons être heureux. Lorsqu'il voyait ce que le Seigneur avait préparé, il avait compris que pour lui, ça valait la peine de continuer à souffrir, de faire l'œuvre de Dieu. Quand l'apôtre dit « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses », cela est salutaire pour vous. Quel est l'être humain bien-aimé qui prend plaisir à répéter les mêmes choses? Qu'est-ce que ça te fait de répéter les mêmes choses à ton enfant que tu lui répètes toujours? Tu es irrité, tu es dérogé au-dedans de toi. Qu'est-ce que ça te fait de répéter lorsque tu travailles à l'accueil? Il y a des personnes qui ne veulent pas s'asseoir là où tu leur indiques pour faciliter le travail. Qu'est-ce que ça te fait de lui répéter toujours les mêmes choses? Lorsqu'une personne ne respecte pas les emplacements sur le parking, qu'est-ce que ça te fait de lui répéter toujours? Mais pense aux autres. Est-ce que c'est avec joie qu'on le fait? On ne le fait pas avec joie. On aimerait dire les choses une fois et que les gens écoutent. Mais l'apôtre Paul dit, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses. Quand il parle aux Corinthiens, il dit, je vous parle comme à des hommes charnels parce qu'il y a encore des querelles et des divisions au milieu de vous. Je ne vous parle pas comme à des hommes faits. Vous ne pouvez pas supporter ce qui est solide. Ce n'était pas la volonté de Paul. La volonté de Paul, c'était que le peuple croisse dans le salut, croisse dans la connaissance, afin de ne plus leur adresser la parole comme à des enfants, mais à des hommes faits. Et pourtant, il dit, je me lasse de vous répéter les mêmes choses. Tout cela constituait pour lui une forme de souffrance. De voir que ces prédications qu'il donnait depuis des années n'emmenait pas forcément les gens à changer. Mais il dit, j'estime que ces souffrances-là, je les accepte. J'accepte de vivre ça parce que je sais que la gloire à venir de loin me consolera de tout ce que j'ai pu souffrir sur la terre. Et c'est pourquoi il tenait. Parce qu'il avait les yeux fixés sur ce que le Seigneur avait préparé. Il avait les yeux fixés sur les promesses du Seigneur. Et non pas omnibulés par les déboires de la vie et par les déceptions, par les trahisons. Beaucoup l'avaient abandonné, comme il disait, pour l'amour de ces siècles-là. Mais il n'en a pas fait une excuse pour renoncer à la foi. Il n'en a pas fait une excuse pour délaisser le Seigneur comme beaucoup le font aujourd'hui. Tel m'a déçu, le pasteur m'a déçu, tel chrétien m'a déçu. Ah, les chrétiens. Et tu retournes à vivre comme un païen. Tu vis comme un païen parce qu'un chrétien t'a déçu. Tu n'acceptes pas les souffrances du temps présent. Tu n'as pas les regards plongés sur la promesse que Dieu a pour toi. Et moindre choc, moindre déception, tu abandonnes le Seigneur. Moindre déception, tu te détournes du Seigneur. La Bible nous exhorte à avancer en ayant le regard fixé sur Jésus-Christ. C'est de lui qu'est issue notre foi. Jésus-Christ est notre espérance. Mais dès l'instant où on perd de vue l'espérance, alors nous devenons comme dans les ténèbres. Nous ne sommes plus éclairés et nous n'avons plus de direction. Les apôtres avaient compris cela. Ce n'était pas évident en leur temps de vivre l'évangile. Nous avons l'évangile aujourd'hui qui nous défend. Alors tu peux venir me contester, mais j'ai les Écritures. Et par les Écritures, je te montrerai que tu fais mal. Mais les apôtres n'avaient pas ça. Ils n'avaient que l'autorité que Dieu leur avait donnée. Tel vient avec son songe, tel vient avec sa prophétie, tel vient avec sa parole de connaissance. Et ils n'avaient que l'autorité de Dieu pour manifester que ce qu'il disait, c'était ça. Et ils ont tenu ferme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, mais qui vous a détourné? Qui vous a fasciné? C'est-à-dire qui vous a ensorcelé en quelque sorte? Qui vous a changé, détourné pour que vous puissiez embrasser un autre évangile? Il dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui viennent et qui vous troublent. Ils avaient à faire face à tous ces combats, toutes ces réalités. Parce qu'ils avaient l'autorité de Dieu et ils n'avaient pas l'évangile écrit tel que nous l'avons aujourd'hui. Mais ils ont accepté tout cela. D'être mis en prison, d'être regardés comme des imposteurs, d'être jugés comme des voleurs, comme des malfaiteurs. Mais ils avaient les yeux fixés vers ce qu'il y avait de meilleur. Alors ils ont accepté les souffrances du temps présent. Et la suite nous dit, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu ?» Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà l'espérance des choses à venir dans lesquelles les apôtres s'attachaient. Il dit que les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir. Mais ces souffrances du temps présent, il dit que toute la création en souffre. Toute la création en souffre et en le désir de voir la révélation que les enfants de Dieu ont connue. Et il dit que cette révélation, en quelque sorte, ce sont les prémices de l'esprit que nous avons, dans ce que nous avons aujourd'hui, et qui nous ouvre les réalités spirituelles, qui nous donne l'espérance de voir les choses meilleures par la suite, et qui, par conséquent, produit en nous une sorte de paix qui nous aide à tenir dans ce monde. Il dit que le monde, la création tout entière, a soif de connaître ça. La richesse qui est en nous, même si le monde ne le montre pas, même si les riches semblent être forts, l'apôtre dit qu'au-dedans d'eux, ils souffrent aussi les douleurs de l'enfantement. Il y a une douleur au-dedans d'eux qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils veulent voir se manifester ce qui pourrait rassasier leur âme, ce qui pourrait faire leur joie. Et ils sont captifs de cette souffrance-là. Mais il va très loin. Il dit que même si le monde et la création souffrent de cela, au verset 23, il dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, même les enfants de Dieu qui ont reçu les prémices, c'est-à-dire le gage que le ciel est une réalité, qui ont reçu les preuves que Jésus-Christ est Seigneur, les preuves que Dieu existe, il explique par là que même nous, en réalité, nous avons soif de plus que ça. Même nous, nous avons soif de plus que ça. Même si la joie de Dieu peut être répandue dans nos cœurs, nous avons soif de ne plus avoir à lutter contre la colère. Nous avons soif de ne plus avoir à lutter contre la convoitise. Nous avons soif à ne plus lutter contre la faim, à lutter contre les dominations, lutter contre les sectes. On a soif de ne plus combattre devant la réalité du monde qui refuse Jésus. On a soif de ne plus avoir à parlementer, à discuter, à débattre avec les gens pour prouver que Dieu existe. On est fatigué de ce combat-là. On aimerait que les choses coulent. On aimerait que les choses soient faciles. On aimerait que les gens se convertissent en claquant des doigts. Mais ce n'est pas cette réalité que nous vivons. Et quelquefois, ça peut irriter. Quelquefois, ça peut décourager. Et l'apôtre dit que nous aussi, nous avons soif d'être délivrés de ça. Même si le monde souffre plus, mais au-dedans de nous, il y a le désir de rencontrer Jésus-Christ face à face. Qui n'a pas le souhait de voir Abraham? Quel enfant de Dieu n'a pas le souhait de rencontrer le roi David, de discuter avec lui, de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas ce désir-là de rencontrer Jacob, de discuter avec Jean, avec Jacques, avec Pierre? L'enfant de Dieu a ce désir-là de voir Jésus-Christ face à face, de voir comment les mains ont été percées, de revoir le film de ce que nous n'avons pas vu il y a des milliers d'années. Qui n'a pas soif de ça? Et l'apôtre s'accroche à ça. Il dit, c'est ça qui fait l'objet de ma motivation, de ma persévérance. Tout ce qui est souffrance, mais devant la joie de ce que Dieu prépare. Alors je tiens ferme, parce que je ne veux pas rater cette récompense-là. Même si le monde va mal, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Même si dans certaines églises, ça va mal, ce n'est pas une question pour baisser les bras. Même si les chrétiens te déçoivent, ce n'est pas une question, une raison pour baisser les bras. Même si tu es dans le besoin aujourd'hui, tu as peut-être prié, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Tu es au chômage, toutes les portes se ferment, toutes les demandes que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais semble échouer. Ce n'est pas une raison pour abandonner le Seigneur. Ce que le Seigneur prépare à l'avenir est de loin meilleur que la détresse dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui. Ça vaut le coup de souffrir à cause du nom de Jésus. Ça vaut le coup de souffrir à cause de l'Évangile pendant un temps et de connaître le bonheur que Dieu te réserve éternellement. Ça vaut le coup. Les apôtres avaient compris cela. Ils disent non, j'estime que les souffrances du temps présent sont incomparables. Ce qui est incomparable, bien-aimé, c'est quand on dit il n'y a pas photo. Tu peux aujourd'hui comparer 2 voitures. Voilà, tu veux comparer peut-être une Clio avec une Peugeot 106. C'est les mêmes gabarits, il y a à peu près les mêmes caractéristiques. Tu peux comparer, c'est la même gamme. Mais tu ne peux pas comparer une Clio avec une Mercedes classe S500. Ce n'est pas du tout le même gabarit. Ce n'est pas du tout la même lutte. Sur un ring, tu ne vas jamais voir un poids coq. Les poids coq, je crois, ils font moins de 50 kilos, moins de 40 kilos, je sais pas, moins de 50 kilos. Avec un poids lourd qui dépasse les 100 kilos, ça ne se fera jamais, c'est incomparable. Ce n'est pas la même catégorie. Et c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de mots pour expliquer et comparer les souffrances que nous vivons aujourd'hui et la gloire qui va venir. C'est carrément un autre monde. C'est un autre pays. C'est une autre gloire qui est incomparable. Avec les mots humains, on ne peut pas expliquer la gloire que Dieu prépare au ciel. La joie et la paix qui nous attend au ciel ne peut pas être comparée avec les mots humains. Par le Saint-Esprit, nous expérimentons des petites portions de la gloire de Dieu. On expérimente la joie, on expérimente la paix. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens. Lorsque nous prenons Éphésiens, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er. Verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est un gage, c'est-à-dire qui est une preuve de la réalité des choses spirituelles. Lorsque une personne est endettée et qu'elle veut montrer qu'elle est de bonne foi pour rembourser, elle va donner un gage. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas la totalité de ce qu'elle doit, mais elle donne une partie qui est la preuve de sa bonne foi, qui est la preuve de ses dispositions à rembourser tout. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un gage. C'est-à-dire que c'est une preuve, une portion de Dieu en quelque sorte, qui montre la bonne foi de Dieu et qui montre la réalité que les choses spirituelles sont vraies, que la vie de Dieu en nous est vraie, mais que nous connaîtrons plus tard dans toute sa plénitude. Et c'est ça la promesse du Seigneur. Et devant cette réalité-là, alors nous devons nous consoler avec ça et de se dire, je galère un peu de temps. Ben, ce n'est pas grave. Un jour, tout ça, ça va s'arrêter. Je serai avec mon Seigneur et cette galère-là, je ne la connaîtrai plus. Qu'est-ce que nous allons espérer du monde? Tous ceux qui marchaient hier, comment on appelle ça sur la route aux Anglais, c'est ça qu'on appelle? Hein? La balade des Anglais? La promenade des Anglais. Tous ceux qui marchaient là, bien-aimés, quelques instants avant, est-ce qu'ils pouvaient s'imaginer qu'ils allaient vivre ce drame-là? Ils ne se sont pas imaginé ça. Ça, c'est la réalité du monde qui aujourd'hui te donne la joie, mais d'une minute à l'autre peut te mettre dans une détresse pas possible. Le monde est instable. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Voilà encore une parole d'espérance que l'apôtre Paul nous donne. 1 Thessaloniciens 4 au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qui a besoin de consolation? C'est celui qui est affligé. Qui a besoin de consolation? C'est celui qui est dans la tristesse. Et l'apôtre savait que les réalités du monde pouvaient nous emmener dans une forme de tristesse, dans une profonde tristesse. Et là, il évoque la question des réalités liées à la mort, tout simplement. Il dit, mais non, ne soyez pas dans la tristesse. Nous sommes là ensemble, mais certains d'entre nous mourront les uns avant les autres. Il dit, mais non, il dit, tous ceux qui sont morts avant dans le Seigneur, et nous tous après, on finira par se retrouver. Lorsque l'enlèvement aura lieu, et on sera toujours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous avec cette parole-là. Ça peut être difficile de perdre les gens qu'on aime. Ça peut être difficile de voir les réalités sur la terre. La mort est liée à la terre. Et il dit, mais il y a une consolation grande qui nous attend. C'est qu'un jour, nous allons rencontrer le Seigneur face à face et nous serons toujours avec lui. C'est là, bien-aimé, notre consolation. Si nous sommes consolés parce qu'un chèque entre en banque, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Il y a un passage dans Corinthiens où l'apôtre Paul dit, si vous espérez en Jésus uniquement pour la terre, alors vous êtes les plus malheureux des hommes. Si notre espérance est tout simplement liée à la bénédiction qu'on attend de Dieu, et c'est ça qui va faire notre joie, si notre joie se limite simplement au mariage, à l'enfantement, au travail, si c'est ça qui va faire notre joie sur terre, l'apôtre dit, si c'est ça, mais vous êtes vraiment malheureux. C'est une manière de dire que vous n'avez pas compris de quoi dépendait le vrai bonheur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, Philippiens 4, 6 plutôt, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs dans la paix avec Jésus. Ce passage ne dit pas, demandez ce que vous voudrez et on va vous exaucer. Non. Le Seigneur n'a pas dit qu'on va vous exaucer. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il va garder notre cœur d'abord dans la paix. Afin que notre paix ne dépende pas de l'exaucement de Dieu, mais dépende tout simplement de Jésus-Christ. De l'assurance d'avoir Jésus. De l'assurance que j'ai prié, que Dieu m'a entendu. Et puisqu'il m'a entendu, selon 1 Jean 5, 14, 15, que tout ce que nous demandons, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ainsi, celui qui est dans cette assurance-là n'a plus besoin de voir les choses de ses yeux parce qu'il sait que Dieu l'a déjà exaucé et il demeure dans la paix. Il demeure dans la joie. C'est dans cette paix-là que Anne, la maman de Samuel, s'est retrouvée. Elle qui était stérile, qui n'enfantait pas. Et la Bible dit que le jour où elle a répandu son âme devant le Seigneur, on entendait à peine, on n'entendait pas, on voyait juste sa bouche murmurer. Elle dit, je répondais mon âme. Elle répondait sa douleur parce qu'elle n'enfantait pas. La Bible nous dit que lorsqu'elle est sortie de la prière, son visage n'était plus le même. Cette femme avait changé. Après ce temps de prière, quelque chose s'était passé. Elle était maintenant dans l'assurance que Dieu l'avait entendue et que Dieu l'avait exaucée. Bien que de ses yeux, elle ne voyait pas encore la chose, mais dans son cœur, les choses étaient décidées. C'est la raison pour laquelle, dans Hébreux 11, quand on parle des héros de la foi, on nous dit que certains n'ont même pas obtenu de leur vivant ce qu'ils avaient demandé, mais ils ont tout simplement salué de loin, à distance, spirituellement. Ils ont compris que Dieu était capable de les exaucer, mais ils n'ont pas exigé de voir ces choses-là. Pour eux, ça ne comptait plus, parce qu'ils marchaient déjà avec l'assurance que ce qu'ils avaient demandé à Dieu, Dieu leur avait déjà donné. C'est ça la réalité. Hébreux 11, Apocalypse plutôt, et après ensuite nous irons dans Hébreux. Nous clôturons, ou nous finissons plutôt avec cette promesse-là que le Seigneur nous fait, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse est le livre de révélation. Les révélations que le Seigneur va faire à son serviteur Jean, qui était exilé sur une île. Et sur cette île-là, il va voir une vision qui va quelquefois même le faire peur, où il va voir la guerre, il va voir la bataille qui va se passer dans la fin des temps. Il va voir la souffrance des gens qui ont vécu la grande persécution, ceux qui refusent le Seigneur aujourd'hui, mais que Dieu fera quand même grâce au moment où la grande persécution viendra quand Dieu aura enlevé l'Église. Il va voir tous ces gens-là de la fin des temps être sauvés. Et la Bible dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et lorsque toutes ces choses-là s'achèvent, ces souffrances et tous les fléaux que Dieu va envoyer sur la terre, au verset au chapitre 21, nous relisons, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. » Avec les hommes, le tabernacle, c'est une grande tente. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu va essuyer toutes les larmes. On essuie les larmes de celui qui pleure. Celui qui pleure, c'est celui qui est dans le deuil, celui qui est dans la tristesse, celui qui est dans la souffrance. Les pleurs, c'est l'expression de la souffrance. Les pleurs, c'est l'expression de la détresse. Et c'est une manière de dire que Dieu va enlever toute notre détresse. Il va enlever toute notre souffrance. Lorsque tout sera achevé, tout ce qu'on a pu subir sur la terre de difficile, les consolations que les hommes n'ont pas pu nous apporter, les consolations que nous n'avons pas pu connaître pleinement sur la terre, le Seigneur dit qu'un jour tout ça, ça sera fini. Il va essuyer les larmes. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. Et c'est cette révélation-là avec laquelle les apôtres ont marché. J'estime que les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir, incomparables à ces nouveaux cieux, à cette nouvelle terre que Dieu prépare pour ses élus. Alors ça vaut la peine de galérer un temps pour être heureux éternellement avec le Seigneur, là où la maladie n'existera plus, là où le deuil n'existera plus, plus de veiller, plus besoin d'intercéder, plus besoin de jeûner, plus besoin de crier, mais ça sera la plénitude avec le Seigneur. C'est cette joie qui nous est préparée. Et c'est avec cette joie-là, à venir, cette paix que nous connaîtrons qu'en ce moment-là, eh bien c'est ça qui doit faire l'objet de notre consolation. Maintenant, comment vivre cela? On clôture avec Hébreux 11, bien entendu avec la foi. Hébreux 11 au verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Celui qui a l'assurance, c'est celui qu'on ne peut pas détourner de ce qu'il croit. Quelqu'un qui est assuré, c'est quelqu'un qui a la certitude que c'est comme ça et c'est pas autrement. Quel que soit ce que tu peux lui dire, quel que soit ce que tu peux lui faire, il est certain que les choses sont comme ça et ça ne bouge pas. Et la Bible dit que la foi, c'est ça. C'est cette assurance-là en Dieu, en ses promesses, en ce que Dieu a dit. Nous sommes certains de ce qu'il a dit, que c'est comme ça. Quel que soit ce que nous entendons, quel que soit ce qu'on nous dit, quel que soit ce que nous vivons, nous avons la foi et l'assurance que les choses sont ainsi. On ne pouvait pas détrôner, on ne pouvait pas bouger, on ne pouvait pas emmener les apôtres dans l'erreur, les véritables disciples de Jésus, parce qu'ils avaient la foi dans les promesses du Seigneur. Et rien ne pouvait bouger cela. Ils avaient une assurance. Que les promesses qui ont été annoncées par Jésus, elles sont comme ça et on ne bougera pas. Le Seigneur a dit, il n'y a pas un iota qui passera de ma parole. Rien ne passera. Ce que j'ai annoncé, c'est ce qui se produira. Le Seigneur a donné cette garantie et les disciples se sont accrochés à cette parole-là. Ils avaient foi, ils avaient l'assurance dans ce que le Seigneur avait dit. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démontrer quelque chose, c'est prouver. Lorsque je démontre quelque chose, lorsque je fais une démonstration, la démonstration, ça peut se faire par des actes, ça peut se faire par des preuves, avec des arguments solides. Donc, toutes ces choses-là que je vais apporter pour démontrer que les choses sont ainsi. Lorsqu'on cherche à démontrer qu'une personne est coupable, on emmène des témoins, on emmène des preuves. S'il y a les caméras qui avaient pris, on emmène tout ça. Donc, la somme de toutes ces choses-là que j'emmène, c'est ça qui va démontrer que la chose est comme ça et pas autrement. Tu es coupable parce que les témoins sont là, parce que les preuves sont là, parce que dans le discours, tu as dit, tu t'es contredit. Donc, il y a un élément de choses qu'on réunit qui démontre que les choses sont ainsi. Et la Bible nous dit que la foi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que dans la foi, il y a notre attitude qui doit démontrer ce que nous croyons. Qui doit démontrer que ce que nous croyons, c'est ça. Donc notre manière de vivre démontre clairement que j'ai foi en ce que j'ai cru, en ce que j'ai vu. Ainsi, la paix et la joie qui nous consolent aujourd'hui, qui nous aident à tenir par rapport aux promesses à venir, c'est une joie et c'est une paix qui est manifeste par la démonstration de la foi. Ainsi, puisque nous croyons en cette promesse-là, nous sommes assurés de ce que le Seigneur a dit. Nous sommes assurés de ce qui nous attend. C'est ça qui nous produit la joie d'aujourd'hui. Je suis dans la joie même si les temps sont difficiles. Je suis dans la joie même s'il y a la souffrance, parce que ma joie ne dépend pas de la terre, mais dépend de ce que je vois dans l'avenir. Donc je suis déjà heureux de voir ce que le Seigneur a préparé pour moi, et ma manière de vivre démontre que j'ai cru en ça. Alors même si les événements sont difficiles, même si je suis choqué sur le moment, même si je suis piqué sur le moment, puisque mes yeux sont fixés là-haut, puisque ma foi est attachée aux promesses que le Seigneur a faites, je le démontre aujourd'hui par ma joie et par ma paix, que le monde ne peut pas ébranler parce que j'ai une ferme assurance de ces choses-là. Et je le démontre, même si je ne les vois pas, même si tu ne les vois pas, moi j'y crois parce que je suis attaché, et par ma vie, par mes actes, par mes paroles, par mon attitude, par mon caractère, je démontre cela par ma vie. C'est de cette manière-là que nous pouvons expérimenter cette joie en fonction de la foi. Qu'est-ce que nous croyons ? L'apôtre a dit, j'ai cette assurance-là. J'ai cette assurance-là. Les souffrances du temps présent sont incomparables à la gloire à venir. Lorsqu'on a persécuté les premiers chrétiens, la Bible nous dit qu'ils étaient heureux d'avoir été frappés à cause du nom de Jésus. Ils étaient heureux. Donc leur bonheur dépendait de ce qu'ils avaient reçu de leur maître. Donc la souffrance qu'ils vivaient présentement, finalement ne les affectait pas. Parce qu'à travers cette souffrance qu'ils vivaient, c'était les promesses de Jésus qui s'accomplissaient. Ils se souvenaient que le Seigneur a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Certains vous feront mourir, croyant même rendre un culte à Dieu. Donc vivre ces choses-là montrait tout simplement qu'ils étaient dans les promesses du Seigneur. Et puisqu'ils étaient dans les promesses du Seigneur, alors ils étaient certains que même les promesses qu'ils n'avaient pas encore vécues étaient véritables. Et c'est ça qui faisait leur joie. Et c'est ça qui leur a donné le zèle pour aller jusqu'au bout, même si ça a été difficile. La foi est une démonstration, bien-aimée, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas vu le royaume de Dieu. Je n'ai pas vu le paradis, même pas en songe, même pas en rêve, même pas en vision, même pas sur un dessin. Je n'ai pas vu ça. Mais j'ai la foi que c'est vrai. J'ai la foi que c'est une réalité. Alors cette foi-là va m'aider à tenir les réalités de la vie. Même s'il y a la galère aujourd'hui, même s'il y a le chômage aujourd'hui, même si demain il y a la maladie, mais ce que Dieu me prépare va me consoler de toutes ces galères-là. Et c'est ça, les choses à laquelle nous devons nous attacher, bien-aimés, afin de tenir par rapport aux réalités et de ne plus se décourager à la moindre épreuve, au moindre coup de vent, à la moindre mauvaise nouvelle. Souvenons-nous de ce que Dieu nous prépare. À Jésus-Christ seul, soit la gloire. Amen. Seigneur, merci pour toutes tes promesses. parce qu'elles sont véritables, Seigneur. Seigneur, nous nous humilions devant toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Or, nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, devant certaines réalités que nous vivons, qui nous arrive de murmurer, Seigneur, qui nous arrive de douter, qui nous arrive, Seigneur de gloire, de nous refroidir dans la foi même, Seigneur, qui nous arrive, Seigneur, de te bouder devant toutes ces réalités, Seigneur, parce que nous oublions, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est essentiel. C'est la fin de toute chose. C'est pourquoi la Bible nous dit, Seigneur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin, Seigneur de gloire, est plus beau que le commencement, Seigneur. Lorsque nous prenons même l'exemple d'une maison en construction, Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas beau. Lorsque la maison est inachevée, ce n'est pas beau, Seigneur, à voir. Mais lorsque tout est fini, Seigneur, que la peinture est finie, que le toit a été posé, Seigneur, l'édifice est beau. Nous aussi, Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas refroidir, Seigneur de gloire, au moindre tremblement de terre, Seigneur. Mais nous voulons nous souvenir, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend, Seigneur. Seigneur, que cette certitude demeure dans notre cœur. La chair est faible, Seigneur, et il nous arrive quelquefois de faiblir, d'oublier, Seigneur de gloire, toutes ces choses-là. Seigneur, mets cette conviction dans nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous convainc, Seigneur de gloire, véritablement, Seigneur. Que la gloire à venir, Seigneur de gloire, est belle, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous convainc cela, Seigneur Dieu de gloire, nous convainc de cela et nous maintient, Seigneur Dieu de gloire, dans cette réalité. Aide-nous, Seigneur, à garder les yeux fixés vers toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus.